Ça fait drôlement plaisir de revenir dans la famille. La famille proche, parce que la famille de Dieu, c'est toujours la famille de Dieu. Même à des kilomètres, on a quelque chose, même quand on ne se connaît pas. Mais là, c'est vraiment la famille proche. Ça fait longtemps que moi, j'étais quand même parvenue. Et puis, ouais, c'est pas bien, mais... Oui, mais j'envoyais le meilleur de nous. Et puis, donc c'est tout près aussi de Belfort. On n'a rien oublié, je vous promets qu'on n'a rien oublié, qu'on continue à prier, que je crois que c'était du Seigneur, je crois que c'est du Seigneur qu'on soit un peu mis à part, parce qu'on fait beaucoup de choses, comme disait Luc, mais ça n'empêche que quand on se revoit, on est toujours aussi proches. Moi j'ai vu vendredi soir, j'avais un amour pour chacun de vous, parce qu'on avait fait tellement de choses ensemble, on avait fait les séminaires de femmes ensemble, vous aviez prié pour nous, pour moi, et puis là, on était de nouveau ensemble, j'avais envie de... Je pense que prier pour les gens, quand il y a de l'amour, quand il y a du vécu, quand il y a du respect, quand on s'aime, quand on veut se consoler, se protéger, tout ça, on a une force encore décuplée. Je crois que la prière avec l'amour, c'est encore plus efficace. D'ailleurs, c'est comme ça que le Seigneur priait, avec un amour, une compassion... Et donc, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait plaisir aussi de voir moi Patrick, je l'avais pas vu depuis. J'étais contente de le serrer dans mes bras. Je me rappelle quand il venait chez nous, il était tout jeune. C'est souvent arrivé. On avait des bonnes discussions. Ouais, nous aussi, on était jeunes. Il est la salle aussi, Hervé, Emmanuel. J'ai pas eu le temps de l'embrasser, mais on a passé des heures ensemble. Tous. Jean-No et Nadia aussi. Enfin bref, vraiment, on était vraiment heureux de voir chacun. Voilà. Et puis je voulais quand même vous dire aussi qu'on est ébahis des locaux que vous avez. On est fiers. On pense, parce qu'on se sent partie de votre réussite, tout humblement. Mais on est fiers, vraiment, le Seigneur vous met au large. Il y a une dimension nouvelle. Et puis, pour moi, c'est vraiment, c'est comme rentrer dans la cour des grands, mais pas avec de l'orgueil. C'est simplement que le Seigneur va nous donner plus de sagesse, plus de responsabilité, mais plus de privilèges, va nous faire grandir, va nous permettre finalement d'être plus une vitrine pour le monde extérieur. Puis c'est quand même ce qu'on veut maintenant pour l'Église, qu'on reste pas toujours entre nous, toujours en petit groupe à se faire du bien, ça c'est formidable, mais qui vraiment qu'on puisse montrer qu'on a apporté quelque chose, qu'on a un témoignage, et puis qu'on sait vivre ensemble. Et puis qu'on sait s'aimer, s'aider, qu'on ait une vision d'atteindre les autres, d'apporter de la bénédiction, d'atteindre les pauvres, de la bénédiction spirituelle, mais de la bénédiction physique, matérielle. Alors j'ai beaucoup aimé, moi, la salle en dessous, la boîte de nuit, là. Je trouve ça génial parce qu'on n'a jamais vu dans l'église. Et je crois que là aussi, le Seigneur a vraiment un plan avec des jeunes qui vont oser venir parce que c'est un milieu qu'ils connaissent et ils vont entendre autre chose. Et ils vont s'éclater encore plus que dans le milieu qu'ils connaissaient avant. Ouais, je trouve que c'est sensationnel. Et puis, vous avez ces moyens-là. Et vous avez en plus le groupe de jeunes adéquat, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment sensationnel. C'est Reinhard Bunke qui raconte, parce qu'on corrige toutes les publications en français de Reinhard Bunke. C'est nous qui les corrigeons. Et puis, il raconte des histoires, des fois, qui nous font pleurer, parce que lui, vraiment, c'est un évangéliste. Il atteint le monde extérieur. Et il racontait, entre autres, des histoires au niveau d'une boîte de nuit. Comment il était, première fois qu'il était rentré, parce que ça c'était quelques années en arrière, et ça se faisait absolument pas, mais il a eu à cœur de rentrer, et il se sentait presque coupable. Il disait, qu'est-ce que je fais là? C'est quand même un milieu qu'un chrétien ne devrait pas fréquenter. C'est ce qu'on racontait peut-être il y a 30 ans, c'est peut-être ce qu'il a entendu étant petit, mais le Seigneur lui a dit, non, non, il faut que tu sois là, il faut que tu sois là. Alors, il est resté, et à un moment donné, il a été voir, bon, poussé par le Seigneur, il entendait la voix de Dieu, faut pas faire ça par présomption ou en disant je vais aller en vainqueur transformer le monde, mais la voix de Dieu lui a dit, le Seigneur lui a dit, va voir le directeur de la boîte de nuit. Et puis, il savait même pas ce qu'il allait lui dire, comme Reinhard Bunke agit. Et puis, quand il est dans le directeur, il dit, est-ce que je pourrais avoir quelques minutes pour dire quelque chose au micro, je suis pasteur pour ces jeunes. Et puis le directeur a hésité, Et il n'a pas dit oui tout de suite, mais ça a dû travailler. Et il est venu un peu plus tard, il lui dit, si vous venez demain, je vous donne 5 minutes à telle heure. Alors, il était quand même dans ses petits souliers, c'est la première fois qu'il faisait une chose pareille, hein, surtout quand il les a vus sortir, la boîte de nuit dans un état pas possible. Il a dit, mais est-ce possible de toucher les cœurs, que ça rentre dans les... Et puis, donc, le soir d'après, il était là, il a eu ses 5 minutes, et il y a eu un silence, mais un silence impressionnant. Je crois qu'on ne se rend pas compte, mais les gens qui s'amusent et puis qui font des bêtises ou qui sont dans le péché ont toujours au fond d'eux quand même une culpabilité. Ils se sentent mal à l'aise parce qu'ils se sentent coupables. Même s'ils ont l'air de rire, ils se fichent de tout dans leurs paroles, ils se veulent rebelles et ils sont fiers d'être rebelles, il y a toujours une part de... Et puis l'un s'est agenouillé, l'autre, etc. Il y avait vraiment un esprit de qui était fort, qui a rempli cet espace. Le Saint-Esprit était là. Et il y a vraiment, alors même en disant très peu de choses, et surtout pas en culpabilisant, mais en annonçant finalement le sang de Jésus, en annonçant le salut du Seigneur, l'amour de Dieu, sans leur reprocher quoi que ce soit. Et là, ils étaient... Donc après, il est parti. Et puis, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est qu'il est revenu un an après dans l'église donc de cette ville. Et puis, il a demandé au pasteur comment ça va, etc. Il dit, bah, écoute, il faut que je t'amène à une réunion. Alors, il a dit, ah bon, on va où? Alors, il dit, bah, tu verras bien. Alors, ils partent en voiture. Puis, ça, ils vont à la boîte de nuit. Et puis, il y avait une bande de jeunes... Donc, c'était pas le soir, hein, mais c'était en journée, et il y avait une bande de jeunes qui s'étaient convertis et qui vraiment étaient travaillés et qui annonçaient l'évangile. Il y avait des réunions dans cette boîte de nuit. Et il avait rien fait, c'est pas nous qui faisons. Il a parlé 5 minutes, puis il a dit des généralités que tout le monde sait, à la limite, hein, mais le Saint-Esprit était là, il avait parlé, et il veut vraiment toucher le monde, toucher les plus démunis, toucher ceux qui ont peut-être le plus péché. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on saisisse, même nous, cet espoir de salut, de restauration. Faut pas rester sur... Même si on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, il faut vraiment qu'on demande pardon, qu'on se repente réellement, qu'on change de direction, mais qu'on se pardonne. Et vraiment qu'on touche ce salut, cette générosité de Dieu, cet amour de Dieu, cet aspect de Dieu que je voudrais encore vous présenter aujourd'hui. Vous savez, on travaille beaucoup. Moi, je crois que vous êtes une famille qui travaille énormément et ça porte énormément de fruits, c'est formidable. Mais je crois vraiment qu'il faut qu'on apprenne aussi à travailler en étant léger, dans la joie, en reconnaissant qu'on ne peut pas tout faire, en s'appuyant les uns sur les autres et en demandant au Seigneur qu'est-ce que je dois faire, mais pas se sentir... Pour moi, je pleure quand je vois des chrétiens qui sont complètement sous un poids parce que ils ont un cœur formidable. Mais le Seigneur veut qu'on soit libre. La liberté glorieuse des enfants de Dieu, ça existe. On veut y rentrer dans cette liberté glorieuse. Alors des fois, c'est difficile parce qu'il y a un travail, il faut l'accomplir. Hein, il y a les œuvres de Dieu, il faut les faire. Hein, il y a l'épître de Jacques, et puis il y a aussi cette liberté, cette joie. On doit le faire, mais parce qu'on est rempli, parce que lui il fait au travers de nous et pas prendre sur nous. Moi, je dois avouer que j'ai souvent trop pris sur moi, même si, parce qu'en fait, je portais par moi-même, et ça, c'est pas juste. Et puis ça finit mal en général. Donc vraiment, je vous encourage, je vous remercie d'être ce que vous êtes, et puis on vous aime, on continue de prier pour vous chacun, et on croit vraiment que c'est pas fini, c'est que le commencement.
Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Ok, ben vous êtes au large dans votre nouvelle salle, moi je suis au large dans mon pantalon. J'ai un pantalon à pinces, j'essaie de gonfler mon ventre pour qu'il tienne, pas qu'il tombe dans la matinée. Donc je donne à la Manu la possibilité de m'interrompre, parce qu'il paraît que c'est une spécialiste pour interrompre les messages. C'est ce que j'ai entendu hier soir, hein. Je veux pas dire qui, mais... Ok. Voilà, je veux vous dire tout de suite, Je voudrais vous dire merci parce que vous m'avez pas trop critiqué depuis 20 ans qu'on se connaît pour certains. Personne n'est jamais venu me dire en me disant « Sam, t'es trop gros, merci beaucoup d'avoir eu de la patience avec moi », même si c'était un peu vrai. Et ces 4 derniers mois, le Seigneur m'a donné une grâce et j'ai perdu 30 kilos. Et ça fait du bien de commencer une vie nouvelle à 53 ans. Vous savez, j'entre cette année, au mois de mai, le 2 mai de cette année, je suis rentré dans ma 40e année de marche avec Jésus. Et je me sens tout jeune. Je sens qu'une saison nouvelle arrive. C'est pour ça qu'il fallait que les vieux comportements de l'ancien, quelque chose bouge. Et avant de dire que ça bouge, avant de prophétiser aux autres, il faut déjà se prophétiser à soi-même. Il faut que dans nos vies, des choses changent. Alors je voudrais que vous compreniez, si vous avez été gentil si, avec moi parce que j'avais du surpoids, je ne veux pas être méchant avec ceux qui en ont, je veux vous dire, je vous bénis dans tous les cas. Quelqu'un m'a abordé tout à l'heure en me disant, oh, j'ai dit des bêtises. J'ai dit, c'est pas grave, t'en as dit, puis moi aussi, puis on en dira peut-être encore. On a un Dieu qui nous aime. Amen. Et il voudrait que nous entrions dans notre héritage. Hier, j'avais des jeunes avec moi et ils me disaient, c'est quoi le mariage? Alors, c'est une question bien compliquée. Et finalement, ce verset m'est venu de l'épître de Pierre. Vous savez ce que c'est, se marier? C'est entrer dans l'héritage de la grâce de la vie. Qui c'est qui voudrait un héritage comme ça? Avoir une belle vie. Amen. Avoir une vie... Comme les prophètes, ils arrêtent de prophétiser des choses bien. La télé prophétise, elle dit, elle est pas belle la vie. Hein? Dieu voudrait que notre vie soit belle. Et je sais que certains, des fois, ils sentent, ils disent, oh là là, j'ai tout foutu en l'air. Je suis au bout du rouleau et j'ai raté plein de choses. On a un Dieu qui est un spécialiste, pas de bricolage, mais de restauration. Et ce qui vient après, c'est toujours meilleur que ce qu'est avant. Toujours, toujours, toujours. OK? Alors je vous encourage, il y en a qui parlent de mariage. Il y a même des gens qui prétendent assister aux réunions d'intercession. En fait, ils voudraient retrouver leur partenaire. Mais on les bénit dans tous les cas de figure, OK? Parce qu'on croit au mariage, on croit que Dieu voudrait qu'ensemble on hérite de la grâce de la vie. Amen. On vous bénit, on vous aime. Et on croit au mariage. On croit que le mariage, c'est réellement quelque chose qui peut nous faire entrer dans une nouvelle dimension. Et ce que je voudrais vous partager ce matin, c'est à propos de mariage. Je voudrais juste dire encore ceci, c'est que... Il y a quelques semaines en arrière, je priais pour Gabe Villers, puis je dis, Seigneur, on va retourner. C'est trop tôt, c'est pas assez tôt. Et puis le Seigneur m'a rappelé dans le livre de Samuel, 1 Samuel 7, Samuel avait l'habitude de visiter 3 villes par an. Et c'était le bon rythme qu'il avait trouvé. Et je veux pas revenir, je sais pas, je reviendrai peut-être jamais si Luc m'invite plus après ça. On va voir. Mais je crois que c'est vraiment le bon rythme, c'est de venir une fois par an. C'est ce que faisait Samuel. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, c'est ses parents qui ont déposé cette grâce-là chez lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? Et puis j'ai relu le début du livre de Samuel. Il est dit que ses parents, une fois par an, montaient à Jérusalem pour adorer. Ses parents pratiquaient une visite annuelle. Samuel naît, réponse à la prière, etc. Sa maman garde l'habitude. Il est dit que chaque année, sa maman montait pour donner un nouvel habit à son petit bout de chou. Une fois par an. Et ses parents avaient déposé dans leur vie une structure, avaient déposé des bases. Et j'aimerais vous dire, en tant que parent ou en tant qu'enfant, c'est bon de déposer des bases dans une jeune vie. Vous savez, quand j'ai été embrassé, moi, Patrick, ma femme, elle se rappelle les bons vieux souvenirs. C'est vrai, elle est un peu plus âgée que moi, mais... Moi, quand je vais voir Patrick, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est occupé de mon garçon. Vous ne le savez pas, quand il avait une vieille 305 pourrie, tu te souviens de ça? Il venait chez... On se rencontrait à un croisement que vous ne savez même pas où c'est au bord de l'autoroute. Et j'ai rencontré Patrick, on n'a pas prié ensemble, on n'a pas prêché ensemble, on se croisait. Et vous savez, j'avais un petit bout de chou, comme on avait un bout de chou qui avait 11 ans, et je le mettais dans les... pas de ce monsieur que je connaissais à peine. Et c'est ça notre contact avec Patrick. Et ça remonte, ça date. Mais la fidélité, les bases qu'on a posées Et merci Patrick de t'être occupé de notre gamin qui à 11 ans est encore haut comme ça, avec ses petites boucles blondes, machin. Mais parce qu'il a vu quelqu'un et qu'il fidèlement il l'a amené entre les mains d'un autre qui s'appelait Luc Boucher, on ne savait pas trop ce que c'était, ce Luberlu, qu'on avait rencontré très peu de temps avant. Et Dieu faisait quelque chose. Aujourd'hui, les médecins urgentistes, et ils disaient il y a 2 jours, ils disaient, tous mes collègues me remercient d'être ce que je suis. Ils commencent à donner des cours en faculté. Dieu, ce que vous avez déposé dans quelqu'un, quelque part, à quelque instant, ça produit du fruit. La grâce et la réussite de la vie de mon fils dépend de ce que Saint Patrick a fait. Simplement parce qu'il empoignait mon gamin à un croisement et qu'il l'amenait à l'autre bout de Mulhouse. Des fois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fabrique, il est en retard. Et puis peut-être que des fois, lui, il se disait, mais cette espèce de Luberlu qui vient de Belfort, mais qu'est-ce qu'il fabrique, il est en retard. Mais il attendait fidèlement. Et je crois qu'en 1 an, 2 ans, c'est jamais raté. La fidélité compte. Pour entrer dans un héritage, Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Pas nécessairement qui sont des hyper spirituels, mais des gens qui sont fidèles, qui cherchent les voies de Dieu et qui sont prêts à déposer quelque chose. Ça ne m'intéresse pas de prêcher, je veux déposer quelque chose dans ta vie ce matin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il reste quelque chose pour que toi tu sois bâti et qu'à ton tour tu déposes quelque chose. Vous savez, on a eu une visitation de Dieu hier soir. Des fois, les gens, ils lisent la Bible et puis ils disent, oh là là, t'as vu, il y avait un prophète et puis il y a son âne qui a parlé. Ça vous intéresse d'avoir un âne qui parle, vous? Hier soir, on était en train de parler du mariage, des valeurs du mariage, de l'intérêt du mariage, de la grâce que Dieu a. Vous savez qu'on n'a eu pas la visitation d'un âne, on a eu la visitation d'un moineau. Oui, c'est vrai. On a eu un moineau qui était tellement intéressé par le sujet qu'il est venu sur la fenêtre, il était à quoi, 2 mètres de nous. Et il écoutait, et tout le monde tournait la tête, et puis il regardait comme ça. Il disait, ça m'intéresse ce qui se passe ici. Parce qu'on parle d'amour, on parle de bâtir quelque chose. Les oiseaux sont intéressés par ça. La création attend que vous vous leviez. Et l'an dernier, puisque c'est vrai, on ne parle pas en semaine ensemble, on parle en année. L'an dernier, on était ici pour dire, écoutez, Dieu veut poser des anciens, pas simplement pour une église, parce que Dieu est intéressé par une ville. Et je remarque une chose, moi, c'est que vous avez pris plus de volume. Moi, je maigris, mais vous, vous grossissez, vous prenez plus de volume. Vous occupez plus de surface. Je vois vos cœurs qui s'élargissent pour le monde politique, vos cœurs qui s'élargissent pour les pauvres, vos cœurs qui s'élargissent pour des domaines nouveaux. Je voudrais que vous attrapiez une vision spirituelle et pratique du royaume de Dieu. Pour commencer, j'aimerais qu'on prenne acte rapidement. L'apôtre Paul va visiter l'église d'Éphèse. Et la Bible dit en acte au chapitre 20, au verset 17, j'aimerais aller assez vite. Je me suis aperçu qu'ici on enregistrait. L'autre jour j'étais chez des gens, ils m'ont dit, ah, on a entendu que tu croyez aux anciens qui gardent les portes de la ville. J'ai dit, oh là là, il y a des mouchards ici. Alors je voudrais les bénir, ceux qui écoutent, mais je voudrais vous dire, Dieu ne veut pas simplement poser quelque chose dans vos vies, il veut poser quelque chose dans le corps du Christ. Amen. Et on veut attraper ça. Il dit, l'apôtre Paul passe à Éphèse. Vous savez, c'était une église phare dans le Nouveau Testament. En Turquie, il y avait une église qui s'appelait l'église d'Éphèse. Et à un moment donné, l'apôtre Paul sait que ça va être la dernière fois qu'il les visite. Alors, je n'ai pas une révélation, mais que je revienne ou que je ne revienne pas l'an prochain, ça n'a pas d'importance. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que Paul a à dire à l'église phare du Moyen-Orient avant de s'en aller. Il fait venir les anciens, il dit, écoutez, voilà, c'est la dernière fois que je vous vois, je vais à Jérusalem, mais je sais, parce que le Saint-Esprit me rend témoignage que c'est la dernière fois, ma vie n'a pas grande importance, ce qui m'intéresse, c'est d'achever et de rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. Écoutez bien ça, hein, c'est ce que Michel vous a dit, c'est l'évangile de la grâce de Dieu. C'est pas qu'on est simplement impliqué dans l'école chrétienne, c'est qu'on a un Dieu qui est plein de grâce et qui veut répandre une bonne nouvelle. et faire de Tougueville-Air son royaume. Et il dit ceci, regardez, il dit au verset 15, il dit « Maintenant, je suis passé parmi vous pour prêcher le royaume de Dieu, et vous ne verrez plus mon visage. Mais je vous prends à témoin que mes mains, je vous ai rien caché du conseil de Dieu. » Et il dit « Prenez garde à vous-même et au troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi surveillant. » Et il dit à la fin du verset 28, il dit « Parce que ce troupeau, c'est la propriété de Jésus. » J'ai une bonne nouvelle qui va libérer les anciens. On est venu les établir l'an dernier, on va les libérer. C'est pas ton troupeau, c'est le troupeau de Dieu. On est là pour servir le troupeau de Dieu, mais on n'est pas vos serpillères. Pour servir. Des anciens, c'est simplement pour servir. Et le travail, c'est jamais les anciens. Enfin, si, c'est les anciens, mais c'est nous tous. Il y a deux versets que je voudrais relever dans la parole de Dieu pour vous rendre sensible sur le fait que nous avons un héritage commun. C'est pas l'héritage de Saint-Luc, c'est pas l'héritage du Sam, c'est l'héritage de nous. La Bible plusieurs fois parle de recevoir un héritage parmi l'héritage. Hello? C'est un héritage que nous héritons en commun. Et regardez ce qu'il dit. Une loi spirituelle très très importante. Hein. Quand j'étais tout petit, moi, mon père, il m'avait donné un cochon. Je faisais mettre des économies dans mon cochon. Et je mettais des sous dans mon cochon. Et puis mon père, il est rusé un peu, hein, c'est un fils de juif, alors il est un peu rusé comme ça. Et puis il m'avait écrit un verset dessous, sur le ventre gonflé de mon cochon. Il avait écrit « C'est plus heureux de donner que de recevoir ». Ça a laissé une trace dans ma vie. Écoutez bien ça, c'est ce que Paul va dire à ses anciens. Il va dire « Écoutez, je voudrais vous apprendre quelque chose. Le plus important, c'est de donner plutôt que de recevoir. » Notre destinée, c'est d'être des donateurs. Ok, j'ai une question. Qu'est-ce que tu peux donner si tu n'as pas reçu d'abord? Hello? La Bible dit, il y a un verset, vous le chercherez, peu importe où c'est écrit, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» On n'a rien, on a les poches vides. On ne peut rien donner si le Seigneur ne nous le donne pas. Mais notre fonction à Guebwiller, notre fonction en France, notre fonction en Europe, notre fonction sur Terre, c'est d'être des donateurs. L'apôtre Paul va dire quelque chose d'incroyable. Il dit « Je ne me suis pas comporté comme un mendiant parmi vous. Nuit et jour, je vous ai averti, j'ai prié pour vous. Maintenant, je vous recommande à Dieu. Mais je voudrais vous dire, je n'ai pas convoité l'argent, je n'ai convoiter l'argent et l'or de personne. Je ne suis pas venu chercher une offrande, je suis venu pour m'offrir. » Est-ce qu'on pourrait faire cette prière ce matin? En disant, je ne convoite rien, je suis venu pour m'offrir. Comme un sacrifice vivant. Vous connaissez tous ça par cœur. Saint Luc le prêche. Je sais que vous le savez par cœur. Mais écoutez, on s'est offert comme des sacrifices vivants. Et Dieu va utiliser l'offrande. Maintenant, vous ne pouvez rien donner si vous ne l'avez pas reçu. Peut-être on devrait sauter, hein, très rapidement. Il est dit ici, peut-être on pourrait le lire, c'est en Colossiens au chapitre 1. Rapidement, j'aimerais qu'on... Certains se croient non spirituels. Au chapitre 4, il est dit... Quoi que tu fasses, le problème c'est que souvent, les gens font rien. Mais la Bible dit ceci, quoi que tu fasses, fais-le comme pour le Seigneur. C'est simple. Moi je voudrais te dire, je ne sais plus elles sont les sœurettes là qui ont fait à manger en bas. Si tu fais ça, elles sont là-bas. C'est ça, tu donnes. Quoi que tu fasses, fais-le comme pour le Seigneur. Vous avez vu ce qu'il y a écrit en Colossiens chapitre 4? Il est dit « Afin de recevoir la récompense de l'héritage ». Est-ce que ça vous intéresse l'héritage du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Ce matin, on a couché chez Nadine et puis Nadine se réveille. Et j'ai noté quelque chose, je ne l'ai pas relevé. J'ai dit « Seigneur, c'est ça ». Elle a dit, on va arrêter de prier pour la guérison. On va arrêter de prier pour recevoir une bénédiction. Nous avons reçu les promesses. On a un héritage. Il va falloir qu'on change de façon de prier. Parce que quand on a de l'argent dans notre poche, « Oh Seigneur, comment vous faire ?» Il dit « Donne !» Le Seigneur Jésus, vous savez qu'il a payé le prix de la guérison ? Et puis on est là, « Seigneur, guéris-moi, s'il te plaît, fais un petit effort, Jésus. » C'est pas des prières, ça. C'est simplement qu'on n'a pas conscience qu'on a reçu un héritage. Vous savez que vous avez un héritage ? Est-ce que vous savez que vous en avez plein les poches ? On est allé à un enterrement avec ma femme cette semaine. Et la personne, elle avait des biens. Hein? Je suis certain que certains dans cette pièce, s'ils entendaient en disant tout d'un coup, je suis héritier de ce que cette dame qui a perdu sa maman, bon, il y a la douleur, il y a tout ça, et puis. Mais quand la personne décède, l'héritage te revient. On a pris la Sainte Cène là. Est-ce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui est mort ? Dans le livre des Hébreux, la Bible dit, si le testamenteur ne meurt, l'héritage, tu ne l'accèdes pas. Mais écoutez bien, la nouvelle, c'est qu'il est mort. Vous aimez sa résurrection, mais j'aimerais vous dire, il est mort. Et par sa mort, le testament devient valide. Les promesses de Dieu deviennent valides. Tu as un héritage. Il ne s'agit pas simplement de savoir si je suis ancien, pas ancien, responsable, pas responsable, on s'en fiche un peu. L'important, c'est d'entrer dans l'héritage. Vous comprenez ce que je veux dire ? On veut honorer les anciens, on veut honorer ceux qui servent, mais nous avons un héritage. J'ai aimé, hier soir, à minuit et demi, on discutait avec un jeune, et puis comme ça, en parlant, parce qu'il blaguait. Vous savez, les jeunes, ils aiment blaguer. Puis, il blaguait, puis j'ai dit, ben, toi, t'as l'humour de ton père. Puis il a ricané, tout ça, je ne sais pas s'il a apprécié, bon, il faudrait lui demander. Puis il y a quelqu'un qui rajoute, puis en même temps, tu as la spontanéité de ta mère. C'est marrant, ça a déclenché des émotions différentes chez le jeune homme. Et on s'est bien amusé ensemble. Vous savez ce qu'il a reçu ? Il a reçu un héritage. Par la naissance, il a reçu un héritage. Parce qu'il est fils d'eux et d'eux. Et en fait, tout l'argent que Saint-Luc et Sainte-Manu ont accumulé, le jour où ils vont décéder, ils vont l'hériter. Amen. Amen. Mais vous savez, on ne parle pas seulement d'héritage matériel, on parle d'un héritage spirituel. On parle d'un héritage naturel. Il y a des grâces chez Raphaël. Ça ne t'embête pas, hein, tu es libre. Hein. Tu es spontané comme gars, hein. Ça t'embête pas, je t'embête pas. Hein. Tu as le droit de me le dire. Hein. Tu viens, tu te lèves, tu me coupes. Ok ? Je te mets à l'aise, quoi. Tu es chez toi aussi. Mais vous savez, on a un héritage. Vous savez qu'on a des parents, nous ? Alors vous allez dire, ouais, et puis on fait de la relation d'aide. Et c'est bon, des fois, la relation d'aide, parce qu'on a un mauvais héritage. Mais au lieu de regarder toujours ce qui est mauvais, si on regardait ce qui est bon. On a des parents qui ont déposé, des fois ce qu'ils ont fait de mal nous a appris ce qu'il faut pas faire. Hello. Les gens, au lieu de regarder toujours ce qui va pas, regardez ce qui va. Et puis retiens ce qui est bon, c'est ce que dit la Bible. Même dans les prophéties, des fois il y a à boire et à manger. La Bible dit, retiens ce qui est bon. Dans l'héritage, il va falloir attraper ce qui est bon. Chez ton papa, chez ta maman, il y a des choses excellentes, je peux te le dire. Ça fait 20 ans que je les connais. J'allais les espionner il y a 20 ans, quand ils grattaient une guitare chez les hommes d'AF. Puis moi, je connaissais pas grand-chose. Hein, tu te souviens, Michel ? Mais il y a un héritage. Et tu peux pas y échapper, parce que la main de Dieu est sur ta vie. Et t'as pas besoin d'être un fils de Luc ou de Manu. Chacun d'entre vous, il y a une grâce, il y a un héritage, il y a quelque chose qui a été déposé dans ta vie. Tu as hérité de quelque chose. Et quand le Christ a donné sa vie, en quelque sorte, il a dit, tout ce qui m'appartient est à vous. Wow! On envisage toujours la mort de Jésus simplement pour me laver de mes péchés. C'est un aspect des choses. Mais c'est pas simplement il veut me débarrasser du péché, il veut me rendre l'accès à tout l'héritage. Wow! Vous avez déjà vu Dieu à l'œuvre? Vous avez... Écoutez, hier j'étais un peu surexcité parce que j'ai commencé à voir des choses. Quand tu vois l'Esprit de Dieu à l'œuvre, tu fais wow! Je vais te dire, c'est autre chose. Tu peux baratiner, tu peux faire des heures de conseil, mais quand Dieu commence à agir, ça bouge. J'aimerais vous dire, Dieu se met à agir. On a un Père, on a un Esprit Saint. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Qu'est-ce que vous êtes doué? Mais le Saint-Esprit, la Bible dit ceci, dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, c'est les arts de l'héritage. Ça vous donne pas envie de connaître le Saint-Esprit? Je vais vous dire pourquoi on allait écouter ces deux qui grattaient une guitare. Parce que ma femme et moi, on avait soif de connaître ce Saint-Esprit. On connaît pas le Saint-Esprit. Excusez-moi, vous êtes charismatique comme moi. On le connaît pas assez. Parce que la Bible dit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, l'Esprit de Dieu, c'est les arts de notre héritage. Ah là 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 là. Les boîtes de nuit, c'est quand même facile pour que Dieu les change. Et Dieu est en train de transformer cette salle parce que quelque chose veut être produit par Dieu dans cette ville. Et je viens de l'extérieur, moi. Hein. J'arrive ici, Michel, elle se sent en famille, mais des fois, de sortir de la famille, de revenir, ça permet de découvrir mieux ou de voir les trésors. Et je vais vous faire une description très prophétique. Vous êtes un sac de pierres précieuses. Vous êtes un tas de perles, de diamants. Bon, peut-être qu'il faut encore polir et gratter et décoffrer. Mais c'est là, vous êtes ça. Il y a un héritage qui vous a été communiqué. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes, ce que vous avez fait, affecte la France? Est-ce que vous savez que ça déborde déjà des frontières? Est-ce que vous savez ça? C'est pas simplement 20 jeunes dans une salle. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de produire. C'est mon héritage. Je vais vous dire, vous allez avoir un danger grave qui vous guette. C'est de mépriser l'héritage. Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit, Colossiens 1, 12, il nous a fortifiés en puissance, selon la puissance de sa gloire, pour patience et constance avec joie. Je vous ai dit, 40 ans, il faut que ça dure. L'évangile, c'est pas un truc d'un coup, hop, je lève la main, je la rabaisse et c'est fini. Je suis sauvé. Non, c'est la vie. C'est la fidélité, c'est la constance, c'est la persévérance. On entre dans l'héritage. Je suis en train de découvrir l'héritage. Je vais vous donner quelques clés ce matin pour entrer dans cet héritage. Verset 13. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Mais regardez le verset 12. Il nous a rendu capable de participer à l'héritage des saints. Les saints, Saint-Luc, Saint-Pierre, Sainte-Manu, Sainte-Géraldine, l'héritage des saints, notre héritage. Vous savez, ce qui est particulier, c'est que quand les parents décèdent, les enfants héritent. Ce n'est pas un enfant qui hérite tout. Mais ensemble, on hérite de la totalité. En clair, si toi tu décroches, si tu lâches Jésus, je vais être privé d'une partie de l'héritage. Mais si on garde une communion solide, les uns avec les autres, on garde l'héritage. Vous savez, il y a un jeune garçon qui, dans la Bible, en Luc chapitre 15, il a dit « Papa, donne-moi l'héritage, j'ai envie d'aller m'amuser avec des prostituées. » Et le père y a donné. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'héritage? Il l'a vilipendé, il l'a gaspillé. Je voudrais vous dire, vous êtes ici dans cette salle, pas pour assister à une réunion, parce que Dieu veut imprimer dans votre cœur, dans vos cellules, il veut imprimer une réalité. Vous êtes des gestionnaires de l'héritage du Père. Je vais prendre une autre image. Il paraît qu'il y a un banquier dans la salle. Un banquier, il ne possède pas tout ce qui est dans la banque. Un banquier, qu'est-ce qu'il fait? Il gère les biens d'autrui. C'est pas l'argent qu'il a peut-être fait fructifier l'argent parce que Dieu y a donné une grâce et c'est son métier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va gérer un héritage. Imaginez que demain, vous receviez 20 millions d'euros. Il y en a qui disent, waouh, ce serait bien. Ce serait un travail énorme. Et vous savez quoi? Dieu vous a donné à gérer un héritage. Et ensemble, Dieu nous a, on est des enfants de Dieu. Vous savez ça? Vous avez déjà entendu ça, hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est responsable de pas tricher. Il est responsable de pas détourner 5 milliards d'euros, hein, comme mon banquier. Hein? Il investit dans du vent. Moi, je voudrais dire à un gars comme Patrick, il a pas investi dans du vent. Et s'il roulait dans une vieille 305 pourrie, et que fidèlement, il allait travailler dans l'école chrétienne, c'est pas du vent. Parce qu'il peut aller voir à Montréal un médecin de qualité qui a réussi sa vie et qui va bientôt nous donner une petite fille. Il y a un héritage et ça paye à long terme. Mais ensemble, on est des co-héritiers. Je voudrais prendre une autre image. Vous savez, quand des fois, quand on fait du business, des fois, on est des copropriétaires. Vous avez déjà remarqué ça? Un immeuble, c'est un peu cher pour se lâcher tout seul. Qu'est-ce qu'on va faire? On va séparer des morceaux. Puis on va dire, ben lui, c'est Jésus, c'est pas mon idée, ça. Il dit, je vais lui donner 34 millièmes. Il va gérer une cave. Et puis lui, il va gérer une cave, un balcon. Et puis on se partage l'immeuble. Et ensemble, on va gérer ce que Dieu nous a confié. Vous savez, la guérison, on parle des chambres de guérison. La guérison, c'est notre héritage. Que tu appartiennes à les chambres de guérison de Sainte Nadine, ou pas, la guérison, c'est l'héritage du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est né de Dieu. Et Dieu a permis à Jésus d'être frappé, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est notre héritage. On n'est pas à mendier la guérison, on n'est pas à pleurnicher la guérison. Vous savez, Dieu voudrait nous rendre conscients qu'on a un héritage. Et puis là, on est une bande de 2 millions de chrétiens qui suivons Saint Moïse, et puis on ne sait pas pourquoi on tourne en rond dans le désert, il y en a marre. Il est temps qu'on retrouve notre héritage. Il faut qu'on retrouve les papiers, ok? On a assez gaspillé l'héritage. Il faut qu'on redécouvre ce qui nous appartient. Je veux vous donner cinq étapes très importantes à propos de l'héritage. Vous savez, dans la première chose qu'il faut faire, c'est peut-être on devrait sauter. Josué, revenez voir avec moi Josué au chapitre 19. J'aime ça par exemple. Et la Bible dit, bon, on pourrait lire 50 versets, hein, mais chapitre 19, Josué chapitre 19 verset 1, il dit le lot échu à Siméon, pour la tribu des fils de Siméon, selon leur famille, il y a un héritage familial. Vous savez que ça existe, ça? Il y a un héritage familial. Il y a un héritage spirituel qui est attaché à des églises, à des équipes. D'ailleurs, j'en profite pour faire une mise au point. L'équipe Axe-Rhin-Rhône, c'est pas Rhin avec mon nom de famille. D'accord? Je le précise, parce que des fois, c'est pas clair. Hein, on veut pas mettre des gens au centre. Ce qu'on a mis, c'est la géographie de Dieu. Parce que le Rhin, c'est Dieu qui le fait couler. Amen. Et le Rhin, c'est pas le Sam. Ok. Juste, il est là, il est dit, il reçut un héritage, regardez ce qui est écrit au verset 1. Leur héritage fut au milieu de l'héritage. Très clairement dans le livre des Éphésiens, relisez le livre des Éphésiens, il est dit, on est des co-héritiers. Et si la jeune fille qui est là, elle gaspille son héritage, ou moi que je le gaspille, eh bien la famille perd quelque chose. Et c'est les biens du Père. Ça m'étonnerait que Saint-Denis, il ait des compliments des actionnaires et des gens qui lui ont confié son argent. Vous savez, Dieu nous a délégué une capacité. Et vous dites, oh là là, c'est la prédication. Il a délégué plein d'autres choses. La ville, prendre soin des gens, de ceux qui pleurent, aller évangéliser à gauche, à droite, au milieu, en dessous, la jeunesse, les pauvres, c'est une seule histoire. C'est pas des trucs spirituels et des trucs naturels, c'est une histoire. Et Dieu veut qu'on reprenne notre héritage et qu'on affecte l'histoire de la terre. D'accord? Je voudrais que vous compreniez que ce n'est pas simplement mon héritage. Vous savez, des fois, quand on recule il y a 10 ans, les gens disent « Oh ben moi, j'ai tel appel, et j'ai telle onction, et j'ai tel ministère. » L'important, c'est de comprendre qu'ensemble, on gère les biens que Dieu nous a confiés. Hello. Et j'aimerais que personne décroche. J'aimerais que chacun s'accroche. C'est le cri de mon cœur. Attrape l'héritage au milieu de tes frères. Je voudrais vous donner 5 étapes très rapidement, mais je crois que c'est important. Juste à propos, il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut attraper les clés de David. Moi, je voudrais vous donner une clé pour attraper la clé de David, juste entre parenthèses, que le Seigneur m'a donnée il y a quelques années. Je voudrais vous donner la clé pour trouver la clé de David. Qui c'est qui la voudrait, la clé de David ? La clé de David, c'est ce que David avait découvert comme secret pour attraper son héritage. Et vous savez ce que j'ai découvert, c'est que vous allez découvrir la clé de David si vous fouillez le livre des Actes des Apôtres, parce que c'est le livre de l'Esprit de Dieu. Cherchez tous les versets où il est parlé de David dans le livre des Actes des Apôtres. Vous allez découvrir la clé de David. J'arrête là, je referme la parenthèse. Mais vous allez voir que c'est connecté à ce que je suis en train de dire. La première chose, c'est Dieu veut qu'on reçoive un héritage. Est-ce que vous savez que vous êtes propriétaire? Que vous avez reçu un héritage? Dieu nous donne des promesses. Vous savez ça, hein? Et comment est-ce qu'on reçoit un héritage? Dans le livre on est en train beaucoup de travailler dans l'équipe, là, de travailler sur un texte qui c'est Romains chapitre 4. Et souvent, on lit ce texte. Abraham a reçu l'héritage du monde. Oh ben tiens, moi je pensais que c'était 20 km de large par 100 km de long. Non, non. Si vous lisez la parole de Dieu, il a reçu l'héritage du monde, de toute la terre. Ça veut dire de Guebwiller. Guebwiller fait partie de l'héritage d'Abraham. Oh, mais donc ça m'appartient, parce que moi je suis un fils d'Abraham, pas toi. Ton village t'appartient parce que tu es un fils d'Abraham. Et donc la première chose, c'est qu'il faut que tu saches que tu as reçu un héritage. Et pas écoutez, on va sortir des gamineries, hein. Ah ben moi j'ai 2 km², ah ben toi t'as que 200 m². On s'en fout, l'important c'est qu'on occupe le terrain. Amen. Ce qui est important, c'est qu'on attrape cet héritage. Parce qu'on peut savoir qu'on a reçu un héritage et pas bouger. Vous avez déjà entendu cette histoire de quelqu'un qui avait reçu, qui était millionnaire et qui vivait comme un SDF. Mais il avait reçu un héritage. Excusez-moi, mais la plupart d'entre nous, on vit comme des SDF. On est de riches héritiers et on se comporte comme des mendiants. On n'a pas conscience qu'on a reçu un héritage. Je sais, des fois, la Manu, elle fait un peu peur à certains, mais attrapez-la, il y a des trésors chez la Manu. Demandez-lui de vous imposer. Moi, j'ai fait ça hein, en cachette il y a 20 ans. Je me disais, là, des choses de l'Esprit de Dieu que moi, je n'ai pas. J'étais jaloux. Parce que ce n'est pas simplement son héritage, c'est quelque chose qu'elle est obligée de partager. Et qu'elle partage volontiers, donc on va s'entendre, on va faire du business ensemble. Ce sont les choses de Dieu. Première chose, recevoir un héritage. Et un tout petit peu plus loin, il est dit, Abraham a reçu ça comment? C'est en Romains 4, hein, vous relirez attentivement. Il a reçu ça pas par la loi. La plupart d'entre nous, on pense que c'est parce qu'un décret de loi arrive et ça y est, on est propriétaire. Pour recevoir un héritage, il faut l'attraper par la foi. Il faut s'en emparer. J'ai été le chrétien, je l'ai souvent dit, vous m'avez entendu dire, je suis désolé de le répéter une fois de plus ici, le chrétien le plus stupide sur Terre, parce que pendant 30 ans, j'ai souffert d'asthme et je ne savais pas que par héritage, j'étais guéri de l'asthme. Mais j'étais malade d'asthme. Et puis tout d'un coup, Nadine n'était pas encore là, je n'ai pas pu aller demander la prière dans les chambres de guérison, mais tout d'un coup, j'ai une petite lueur d'intelligence à 30 ans. Tu vois un peu le niveau, hein? Et j'ai dit, Seigneur, mais ça fait partie de l'héritage. Et puis on s'est mis à genoux, et puis 15 jours après, et j'aimerais te dire, j'ai 53 ans, et ça fait 23 ans sans une seule crise d'asthme. Tu vois le prof en BTS, il a perdu sa fluidité intellectuelle. Bon, ça fait 23 ans, ok? 23 ans. J'ai vécu 30 ans, stupide. Et je savais pas. Recevoir un héritage. Deuxième chose, mesurer l'héritage. Chercher l'héritage. Fouiller l'héritage. Vous souvenez de Joseph, Josué et Caleb? C'était des gens qui en voulaient. Ils voulaient savoir. Ils voulaient espionner. Moi, j'ai été écouter la Manu. Elle m'a béni. Elle le savait même pas d'ailleurs. Mais moi, j'écoutais avec ma femme. On allait et puis on écoutait ces allumés. Je savais pas qu'un jour on deviendrait amis, hein. Mais ils aimaient Jésus et ils libéraient quelque chose sur leur guitare. Et nos vies ont été soudées parce qu'on a le même héritage. J'ai eu une lueur d'intelligence il y a 15 ans. On a commencé des écoles prophétiques et puis j'ai eu une lueur d'intelligence. Ça m'arrive. J'ai dit, on ne veut pas la commencer tout seul, hein, l'ami. On va commencer avec Saint-Luc et Sainte-Manu. Et je me souviens, les gens ne le savent pas, vous n'étiez peut-être pas nés, la plupart d'entre vous. Mais on était dans notre salon, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Par où on empoigne ça? Tu te souviens de cette réunion dans notre salon? Jésus veut nous redonner notre héritage. Mais il faut qu'on le cherche. Il faut qu'on fouille, qu'on cherche dans la parole de Dieu, qu'on sonde, qu'on explore. Josué et Caleb, c'était des... bon voyeuriste, c'est où? Il paraît qu'il y a un pays de la promesse, il est où? C'est Guebwiller, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Guebwiller? C'est quoi l'héritage de Guebwiller? C'est quoi que Dieu veut redonner à Guebwiller? C'est pas simplement je suis rentré chez une famille chrétienne, machin. Non, Dieu veut nous donner un héritage. On veut posséder. Posséder. Et pour posséder, avant, ça arrive, hein? Il faut d'abord mesurer, il faut explorer, il faut espionner l'héritage. La troisième chose qu'il faut faire, il faut entrer dedans. Tu peux dire, wow, je sais que c'est ça qui m'appartient. Mais il va falloir poser un pied. Nadine se lève, elle me dit, tu sais, juste la première réunion qu'on a fait sur les chambres de guérison, ma maman, elle est tombée malade. Eh bien oui, c'est une grâce des fois. Ou la veille. Voilà, elle a su la veille que sa maman, elle avait des problèmes. Des fois, c'est bien d'avoir des problèmes. Excusez-moi, hein. Je ne crois pas que Dieu il nous fouette. Mais des fois, c'est bien d'avoir des problèmes pour qu'on ait le nez dedans. Parce que Dieu dit, ce n'est pas un truc qui rentre dans ton cerveau. Il faut que tu mettes le pied dedans. Il faut qu'on entre dans un mouvement, qu'on entre dans l'action. Il faut qu'on se bouge, les amis. Il y en a marre des églises de spectateurs. Et la Bible nous dit qu'il faut entrer dans l'héritage. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé quand Abraham, il a reçu la promesse d'un pays? La Bible dit très clairement, Abraham s'est bougé. Abraham est rentré en mouvement. Abraham a entendu Dieu lui parler. Mais ça suffit pas d'entendre Dieu parler. Maintenant, il faut se bouger. Il faut que quelque chose change. Il faut entrer dans la promesse. Et comme Michel l'a suggéré, des fois, il faut travailler pour entrer dans la promesse. Même des fois, pour entrer dans le repos. Pour se reposer, des fois, c'est fatigant. Pour rentrer dans le repos, c'est un travail. J'aimerais vous dire, on n'entre pas dans les promesses de Dieu sans travail. C'est de la transpiration. C'est de la collaboration. Nos vies sont mélangées avec les bubus. Nos vies sont mélangées. Vous savez pas. Mais nos vies sont soudées l'une à l'autre et on voudrait vous donner ça. On veut pas vous dire qu'on est la norme. J'aimerais vous dire, moi je me sens pas vieux, je me sens rajeunir, mais j'aimerais vous dire, il est temps que les 20 et les 30 se lèvent, se bougent. Il y en a marre d'attendre. J'attends le réveil. Oh, entre. Et c'est ceux qui mettent le pied et qui ressortent en disant, on va les avoir, qui vont recevoir. Tu peux parler, ah, on va rentrer, puis Josué, il va prier, on va avoir un miracle, et puis on va rentrer dans le Jourdain, et puis alléluia. Tu sais ce qui est écrit derrière? Il va falloir posséder le pays. La promesse, l'héritage, il faut le posséder. C'est pas en claquant des doigts que ça arrive. Ouais? Vous avez déjà remarqué ça? Il y en a qui savent ce que c'est que la transpiration, je le sais, je parle à des gens qui savent. Et j'aimerais vous dire, à nous tous, ce serait tellement plus facile si tout le monde se mettait au travail. Vous entendez? Ce serait tellement plus facile. Et si on arrêtait de se chamailler, si on savait que c'est pas mon héritage, c'est pas le tien, c'est le nôtre. Les desseins de Dieu pour la France. Est-ce que vous savez que la terre entière, je rentre de l'autre bout de la terre, j'étais au fin fond de la jungle amazonienne, que tu vas là-bas, tu rencontres 2000 personnes, tu les as jamais vues, ni d'Ève ni d'Adam, puis ils te disent, ouais, on prie pour la France, on sait que quelque chose va bouger. Je dis, mais vous êtes en... Ils n'ont pas de voiture, ils sont à pied, ils sont à moitié nus, ils sont... Mais ils aiment la France et puis ils prient pour la France. J'aimerais dire, je rentre en France en me disant, il est temps qu'on se bouge en France. Le Saint-Esprit est prêt à faire quelque chose. Et ce qu'on ressent, c'est qu'il y a des frémissements, mais il y a un héritage qui est à prendre. Seigneur Jésus, posséder un héritage. Vous savez ce que ça veut dire en Juges chapitre 1, la Bible dit, ils ont reçu en possession quelque chose. Mais vous savez, le problème des fois, c'est qu'on ne dépossède pas l'ennemi. On reçoit un territoire et on laisse des choses traîner. Il faut qu'on règle nos problèmes. Il faut qu'on se débarrasse des ennemis. Il ne faut pas qu'on tolère sur notre territoire la domination de l'ennemi. Posséder et déposséder, ça va toujours de pair. Wow. J'espère que la violence reste dans nos cœurs. Juge 1, vous lirez tout ça. Hein. Psaume 37, ce sera ma dernière clé. Un héritage, ça ne sert à rien si on ne l'habite pas. La Bible dit qu'ils sont rentrés dans le pays de la promesse. Mais ce qui est important, ce n'est pas simplement de rentrer, ce n'est pas simplement de posséder, c'est d'habiter. Il va falloir que dans ce terrain, dans cet héritage qu'on a reçu par promesse, on habite. Ça veut dire qu'on bâtisse des maisons. Ça veut dire qu'on bâtisse des couples solides. Les jeunes, ce n'est pas ça simplement que je m'intéresse à vous. Ce qui m'intéresse, c'est la destinée sur vos vies. C'est que vous bâtissiez des maisons solides. Et quand les mariages, tout ça, ils partiront à volo. Quand les mariages s'écroulent, votre couple reste solide. Parce que le Christ est là. Et parce que vous allez transmettre, pas simplement recevoir un héritage, mais le transmettre. Mon travail, c'est de vous transmettre quelque chose. S'il vous plaît, attrapez quelque chose du Christ. Jésus commence son ministère, il dit, je ne suis pas venu faire du ministère. Il dit, je suis venu pour que vous me mangiez. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Que vous buviez mon sang, que vous me croquiez. Je ne suis pas venu annoncer des idées, des théories, je suis venu pour que ma vie soit communiqué. Oh là là, ça c'est un drôle de message. Hein, c'est un message cannibalique. C'est pas très évangélique, politiquement correct. Très important. Venez avec moi, on va sauter juste au psaume 37. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Kurababarie. Psaume 37, très rapidement. Oh Jésus, Jésus, la Bible dit ceci, psaume 37, un psaume écrit par David. Hein, vous savez que c'est un gars qui a des clés, hein, vous vous souvenez ça? Je voudrais connaître les trésors de David, c'est un gars qui me fascine. Est-ce qu'il a déjà fait des erreurs, David? Oui, il a fait pire que vous. Il a tué un monsieur pour lui piquer sa femme. Ouh là là, c'est vilain. Hein, mais vous savez la grâce qu'il y a sur quelqu'un qui a le cœur brisé et humilié? Je voudrais vous dire, respectez ça. Respectez ça. C'est précieux. Le roi David a expérimenté personnellement ce que c'est d'être brisé et humilié. Un gars qui aimait la justice, comment il a pu tomber aussi bas? Mais vous savez quoi? Il y a une bonne nouvelle. On a un Dieu qui relève. Et David va donner une de ses clés ici. Il dit, les amis, l'important c'est d'habiter le pays. Regardez ce qu'il dit au psaume 37, verset 8 ou 8 ou 9. Hein. Ne t'irrite pas pour faire le mal. Laisse la colère, abandonne le courroux. Ceux qui font le mal seront retranchés. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel posséderont le pays. Ceux qui s'attendent, ça veut dire ceux qui dépendent de Dieu. Ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Ceux qui entrent dans une action, pas mue par l'effort humain, mais mu par la, la passion de l'intervention de Dieu, ils vont posséder le pays. Pas le posséder à la façon impérialistique anglaise. On veut bénir les Anglais parmi nous, hein? Ou à la façon impérialistique de Napoléon. On veut posséder le pays pour le rendre à Dieu. Pas pour dire « je suis propriétaire, t'as vu ces locaux ?» Mais pour donner à Dieu, pour donner à celui qui a faim, pour servir, posséder le pays. Et ils feront leur délice une abondance de paix. Venez au verset 22, rapidement. Il est dit « le méchant emprunte, il ne rend pas. Merci pour les banquiers. Le juste use de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Car ceux qui sont bénis par lui posséderont le pays. » Oh, la grâce va nous amener sur un terrain où on va posséder le pays. C'est bizarre à comprendre. C'est pour ça qu'on a un Jésus qui arrive et qui dit, vous savez quoi? Les prostituées, elles vont être les premières dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas les grands apôtres, c'est les prostituées. Les enfants, ceux qui vont rester simples. C'est pour ça que je cherche à perdre du poids, pour ressembler un peu plus quand j'étais un gamin. Hein? Dieu voudrait nous rendre quelque chose. Notre héritage. Le Saint-Esprit est donné comme les arts de l'héritage et quand les premiers disciples arrivent, ils mettent la Samarie à feu et à sang. Et j'aimerais vous dire, vous ne mesurez pas ce qui s'est passé dans cette ville. Vous ne le mesurez pas. Juste quelques versets après, verset 29, il est dit, les justes posséderont le pays et ils l'habiteront à perpétuité. Certains, ils disaient, ils blaguaient, ouais, je vais pouvoir me marier, puis on va faire une maison, puis avoir une voiture, puis des gosses. Et puis l'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête pas là. Notre affaire, c'est de posséder le pays à perpète. Waouh! De laisser une trace, pas simplement sur mes enfants, mais sur les enfants de mes enfants. Et c'est le grand-père en puissance qui parle. Je veux laisser une trace, pas de moi, mais une trace du Christ. Le Christ possède la France. Ça appartient pas à Sarko. Mais vous savez, je veux bénir quelqu'un comme ça parce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait une chose géniale quand il est arrivé. Il a dit, il faut changer les règles de la transmission. Il dit, quand des parents travaillent, c'est pour les enfants. Et notre aîné, il a 25 ans, il vient de ressortir un gros paquet de sous pour l'aider à atteindre le bout de ses études. Le deuxième, pardon, merci. Et vous savez quoi? C'était notre job de lui donner des sous. Même si on dit, punaise, encore. Vous savez quoi? Le travail des parents, c'est d'assurer quelque chose pour les enfants. Mais pas simplement pour les enfants, parce que c'est mes enfants. C'est pour laisser un héritage perpétuel. Hello. On va revenir dans deux siècles. Et il reste quelque chose, parce que le Christ a pris possession de Guebwiller. C'est notre héritage. On ne travaille pas pour le court terme. Et je parle avec convaincu ici. Je sais qu'il y a des gens qui visent le long terme. Je ne veux pas être trop long, je veux m'arrêter. Je voudrais vous dire, pour conclure, que tout ça a été donné à Abraham. C'est lui qui a les promesses. Vous savez, dans la Bible, il y a trois hommes qui n'ont pas de parents. On a dit une bêtise l'autre jour. Il y a trois personnages dans la Bible qui n'ont pas de parents. Il y a Adam. Oui, enfin Adam et Ève, ils n'ont pas de parents. Il y a Jésus et puis il y a Melchisédek. Hein? Et Abraham va avoir une révélation avec Melchisédek. Est-ce que vous savez où ça s'est passé ça? Parce qu'Abraham habitait aux chênes de Mamré. Et je sais que Luc a dû, j'imagine que Luc a dû vous faire une étude sur Juges, chapitre 14, parce que vous avez commencé une association qui s'appelle Caleb. Est-ce que vous savez que Caleb a posé des bases aux chaînes de Mamré? Il n'a pas simplement dit, donne-moi de la bénédiction, donne-moi de la bénédiction. Il a fondé une famille et les jeunes ont dit, on veut recevoir quelque chose. Est-ce que vous savez où ça s'appelait? C'était où ça? C'était dans une ville qui ne s'appelait pas Guebwiller, ça s'appelait Hébron. Les chaînes de Mamré, réellement, ça veut dire Hébron. Vous savez ce que ça veut dire Hébron? Hébron, ça veut dire communion. C'est très intéressant. Parce que les promesses de Dieu, vous remontez juste en Genèse, chapitre 12, Dieu va attraper un Irakien. Je sais pas, j'espère que vous aimez les Irakiens, hein, que vous n'avez pas envie d'aller les zigouiller. Hein. C'est l'heure d'aimer les Irakiens. Parce que Dieu aime les Irakiens. Il a choisi un Irakien du nom d'Abraham et il a fait une promesse. Il a dit, je vais te bénir. Il n'a pas été à une réunion charismatique en disant, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. C'est Dieu qui a décidé, je vais te bénir. Et il a dit, je vais faire de toi une bénédiction. Est-ce que tu sais que c'est ça ton héritage? Il fait de toi une bénédiction. Waouh! Est-ce que tu savais que tu n'es pas simplement quelqu'un qui attend des bénédictions, mais que tu es quelqu'un qui est une bénédiction? Et régulièrement dans sa vie, Dieu va visiter Abraham. Et à un moment donné, il va lui donner la rencontre avec un monsieur qui s'appelle Melchisédek. Vous savez où ça s'est passé? C'était à côté des chênes de Mamré. Et les chênes de Mamré, c'est là qu'est Hébron. Vous savez ce que c'est qu'est Hébron? C'est la communion. On a meilleur temps. Écoutez bien ça, c'est très important parce que ça, c'est une des clés de David. David savait que c'est dans la communion fraternelle que Dieu va déposer son héritage. Si tu as un problème avec ton frère et ta sœur, tu vas perdre l'héritage. Quand des familles, les parents décèdent, quand les enfants commencent à se quereller, ah ben toi tu prends plus, et quand il y a de la querelle, on perd tout. Je voudrais conclure avec ça. Hébron, c'est la ville où David va commencer à régner. Quelques années après, quelques générations après. Ce que vous avez commencé avec Caleb, ce n'est pas simplement Caleb que vous avez commencé, une assoce ou un machin comme ça, ça ne m'intéresse pas tellement. C'est que vous avez posé une base pour que des générations plus tard, le Christ règne. On a reçu un héritage. Seigneur Jésus, nous voulons recevoir ta révélation. Seigneur, tu as établi David à Hébron. Seigneur, nous voulons aimer cette ville de la communion dans nos vies. Seigneur, nous voulons nous aimer les uns les autres. Je disais à quelqu'un hier soir, j'ai dit, tu sais, il y a des gens précieux dans tous les milieux. Pas seulement dans cette salle. Cherchons les gens précieux aux yeux de Dieu. Il y a des gens qui ne sont encore pas décoffrés, qui sont peut-être encore dans le péché. Dieu a des plans pour eux. Ce n'est pas seulement des stratégies d'évangélisation, c'est simplement découvrir les perles. Qui sont prêtes, qui sont là, que des générations ont pleuré à Guebwiller, et que vous êtes là, et que vous apportez votre pierre. Seigneur, on ne veut pas mépriser l'héritage, on veut le recevoir. Et Seigneur, je te remercie de ce que nos yeux, je veux prier comme l'apôtre Paul, afin que les yeux de vos cœurs soient éclairés, pour que vous ayez reçu toute la connaissance de la gloire de l'héritage. Pas l'héritage simplement pour moi, 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 l'héritage des saints dans la lumière. Seigneur, merci parce que tu as déposé dans cette honorable compagnie, Seigneur, des trésors et des perles, et des diamants, et des pierres précieuses, et des morceaux d'or, Seigneur. Et que chacun est vital. Et que l'important, c'est que tu les prépares pour être des gestionnaires et des distributeurs de l'héritage. Seigneur, nous sommes ensemble dans cette affaire. Seigneur, on peut raconter plein d'histoires des 20 dernières années, mais on veut se préparer aux 20 prochaines années. Alléluia. Si vous avez ce sentiment que Dieu vous appelle dans cet héritage, levez-vous, on va se lever devant le Seigneur et dire, Seigneur, merci parce que il y a un signe qui est arrivé dans ce pays et Sarkozy a déclaré que c'était fini, que quand les parents décéderaient, les enfants entreraient dans le bénéfice de l'héritage. L'État ne volerait plus. C'est un signe prophétique, les amis. Et c'est le temps que nous puissions donner à nos enfants. Écoutez, nos enfants, nos chers enfants, ceux qui ont moins que nous, si tu as 30 ans, tu as des enfants de 10 ans, pose tes mains sur tes enfants et dis, tu es l'héritier. Abraham, Isaac, Jacob, les trois ont montré l'exemple. Ils ont posé leurs mains sur leurs enfants. Ils ont dit, tu es mon héritier. Ma vie, c'est pour te lever. Ma vie, c'est pour t'enrichir. Les larmes de Luc, les larmes de la Manu, pour des générations d'enfants, c'est pour élever une génération qui possédera la France, qui possédera l'Alsace. Quelqu'un a dit quelque chose qui a bouleversé mon cœur. Il m'a dit, hier, il a dit, l'Alsace est une terre violée, une terre abusée. Moi, je crois qu'on a un Dieu qui restaure. Je crois qu'on a un héritage dans cet endroit. Et la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de choisir quelqu'un et de lui donner ce que vous avez. Pas votre sale caractère, lui donner ce que vous avez du Christ. Seigneur, on ne veut pas laisser à la génération qui suit une terre abusée. Seigneur, nous préparons un champ nouveau. Nous voulons défricher un champ nouveau. Nous voulons nous détacher, Seigneur. Seigneur, vous savez, Caleb, vous lirez dans Juge au chapitre 14, quand Caleb a demandé cette fameuse ville, en réalité, c'était la ville des géants. Les Anakim, c'est littéralement, c'est la ville des géants. Ce même David qui avait rencontré le Dieu qui a toutes les clés, un jour va se lever. Il a dit, les géants ne me font pas peur. Je vais leur couper la tête. Goliath, probablement, faisait partie de la famille des Anakim. Des gens qui vous impressionnent. Et je sais qu'il y a des gens qui vous impressionnent. Je sais qu'il y a des problèmes qui vous impressionnent. Mais regardez ces problèmes droit dans les yeux. Et en disant, toi qui m'empêches, peut-être tu t'appelles la crainte. Peut-être tu t'appelles le découragement. Peut-être tu t'appelles la lassitude. Peut-être tu t'appelles le manque de persévérance. Peut-être tu t'appelles le mépris. Peut-être ça s'appelle le péché, le mensonge. Peu importe ce que c'est. Tu ne m'empêcheras pas d'entrer dans mon héritage. Parce que les clés de David nous appartiennent. Et nous posséderons ensemble le pays. Le Seigneur est en train de bâtir des maisons fortes. Veut restaurer des couples. Veut restaurer des maisons. Veut relever, retrouver des relations justes entre les parents et les enfants. Entre des frères et sœurs. Tout à l'heure, j'avais mon neveu dans les bras. Je disais, je ne sais plus s'il faut que je t'appelle mon frère ou mon neveu. Et des fois, c'est les deux. Mais le Seigneur vous nous donne un héritage, mes amis. Et on a le choix. Demain, ce soir, cet après-midi, de le gaspiller ou de le chérir, de le servir. Et Seigneur, nous voulons, comme tu nous invites à le faire, à poser le pied sur le cou de nos ennemis. Et Seigneur, avec la parole de Dieu, leur trancher la tête, au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu fais de cette église, une église qui hérite la vie éternelle.
Alléluia, merci Seigneur. Alléluia.